S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est à partir de cette phrase que se construit le quotidien d'un directeur de centre de profit. Il faut savoir choisir parmi les possibles, laisser la porte ouverte à la nouveauté, jouer avec les contraintes et faire avec les limites. Le responsable du centre de profit manage plusieurs équipes sur des métiers différents. Il a pour objectif de faire du profit par le service ou le produit qu'il vend à ses clients. Leur satisfaction est la clé, la qualité de la production est centrale. Et cette qualité n'est rendue possible que par l'engagement des équipes et par le sens qu'elles mettent dans leur travail. Nous explorerons ensemble le quotidien de ces managers polyglottes de l'entreprise. Je suis Guillaume Leroux-Martineau, bienvenue dans le podcast Le Sens du Profit.
Bonjour Ruben, donc je suis avec Ruben aujourd'hui à la Montgolfière, Ruben Bertrand. Bonjour Ruben.
Bonjour Guillaume, merci pour cette invitation pour participer à ce podcast.
Merci à toi, on a passé un peu de temps à visiter ce superbe lieu. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu où on est ?
Alors, je m'appelle Ruben, je suis un des deux fondateurs de la Montgolfière. Donc on se trouve actuellement à la Montgolfière, qui est un social sport club qui se trouve entre le canal Saint-Martin et la place de la République à Paris.
Ok, c'est quoi un social sport club ?
Alors c'est un lieu de vie où on mélange pas mal d'activités, donc principalement le sport, mais aussi toute une partie culturelle, artistique, événementielle. Un espace restauration, un espace assez hybride qui peut servir de coworking ou de lieu tout simplement pour se retrouver avec des amis ou faire des rendez-vous professionnels. Donc voilà, c'est un nouveau concept qui est ouvert à Paris il y a 2 ans maintenant.
Super. Et ton rôle là-dedans ?
Mon rôle, je suis à l'initiative du projet avec Basile. Et donc depuis le début, je me suis plus occupé de la partie sportive de par mon passé parce que j'ai été coach pendant quelques années avant ce projet.
Ok. Quand tu dis que tu t'occupes de la partie sportive, du coup, ça veut dire du recrutement, ça veut dire du management, ça veut dire du développement, ça veut dire...
De la programmation, du choix des cours qu'on propose, jusqu'au recrutement, jusqu'à l'ADN, l'esprit qu'on veut avoir, parce que cet aspect social que j'ai mentionné dans le côté social sport club, il est aussi évidemment dans la partie sportive et on va dire une caractéristique de la Montgolfière, c'est qu'on voit vraiment le sport comme avant tout un bon moment passé, une expérience, plus que le côté vraiment performance ou esthétisme que peuvent avoir certaines salles.
Ok. Du coup, dans ce que j'entends là, tu me parles du produit. En fait, j'ai l'impression que c'est intimement mêlé le produit et l'esprit que vous voulez créer.
Bien sûr. Parce que l'esprit fait partie du produit, en fait.
Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?
En fait, les membres de la Montgolfière viennent avant tout pour un état d'esprit qui est assez différent des autres clubs. Déjà par ce mélange des disciplines. On a vraiment voulu un peu casser les codes des clubs de sport et ça se ressent et les gens qui viennent ici le ressentent et du coup c'est vrai que c'est, comme je le disais, en fait ça fait vraiment partie du concept et je pense que beaucoup de gens viennent pour ça.
Ok, j'aimerais qu'on creuse cette notion de casser les codes. Dans ce que tu dis, quand tu casses les codes, ça te fait venir. Enfin, les clients viennent parce qu'il y a une ambiance particulière, parce que vous avez cassé les codes. Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils viennent chercher des codes qui ne sont pas pareils ou est-ce qu'ils viennent chercher quelque chose que tu as reproduit ? Comment vous avez pensé le fait de casser les codes et qu'est-ce que vous avez eu comme ambition derrière ça ?
En fait, pour quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui veut s'inscrire dans une salle, qui n'est pas forcément un habitué des clubs de sport, on va dire traditionnels, il y a un côté déjà un peu intimidant parce qu'on se retrouve comme ça dans un peu, s'il n'y a pas de cours collectif, bah, dans un espace où on ne sait pas forcément comment procéder déjà pour pouvoir s'entraîner.
Ouais.
On est souvent un petit peu victime du regard qui peut des fois émettre un jugement. Voilà, donc ça peut être intimidant. Tu regardes les autres, pardon. Le côté un peu compétition, challenge. Donc, nous, on veut vraiment que le sport il soit ouvert à tout le monde et on ne voulait pas justement avoir cet aspect-là trop, comment dire, pas discriminant, mais qui peut faire peur à certaines personnes parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ce milieu-là. Et on voulait vraiment ouvrir. Comment dire, à des gens qui ne sont pas habitués aux salles de sport et qui se retrouvent pas en fait dans ce qui tout ce qui est sport esthétisme ou sport performance qui est quand même assez pas réducteur, mais moi je respecte quelqu'un qui va chercher la performance ou l'esthétisme, pourquoi pas, mais malheureusement on peut vite tomber dans une obsession et un peu se priver d'autre chose. Et ce qu'on aime ici, nous, c'est cette ouverture qui, oui, on aime le sport, mais on aime aussi l'art, la culture, aimer boire un verre de vin, aborder d'autres sujets que uniquement combien tu soulèves en poids ou quelles sont tes performances sur un 100 mètres, enfin, je ne sais pas. Ouais.
En tout cas, ce n'est pas ça que vous avez voulu faire ici.
C'est pas ça qu'on a voulu faire.
Ok, très bien. Du coup, j'entends que vous avez cassé les codes au niveau des espaces, mm-hmm. dans la distribution des espaces, dans l'offre de services que mm-hmm. vous avez. On a parcouru rapidement aussi tout à l'heure les vestiaires, le sauna, etc. Vous avez aussi cassé les codes en termes de matériaux. Mm-hmm. Comment vous avez réfléchi à ça? Et pourquoi, surtout?
Se sentir bien, ça passe évidemment par les gens qui sont à côté de nous, mais aussi par, comme vous le disiez, par les matériaux, par... les espaces physiques. Et donc voilà, on a essayé d'opter pour des matériaux qui sont pas forcément très utilisés dans des salles de sport, mais plutôt dans des appartements, type du plancher, du bois. Donc ça demande plus d'entretien, ça demande. C'est pas forcément le côté le plus pratique, enfin, c'est pas forcément le plus pratique, mais c'est ce qui fait justement la différence et qu'on se sent. Moins dans un milieu, on va dire, austère.
Ok. Je comprends le concept dans lequel vous avez voulu aller. Mm-hmm. Vous êtes deux à avoir porté cette idée-là, mm-hmm. du coup, ce que je comprends.
Ouais.
Comment vous avez fait pour que vos clients ressentent ça? Parce qu'entre vous et les clients, il y a vos équipes. Et comment vous faites pour faire transpirer un état d'esprit, une identité de marque? Comment mm-hmm. vous la faites descendre, en fait?
Ben, ça passe par 1 million de petits détails, en fait. Qui, séparés des uns des autres, n'ont pas forcément de grande incidence, mais mis ensemble, on l'impacte. Donc, le choix des matériaux, la communication qu'on fait joue beaucoup. Le choix des cours, le choix des profs, le choix de tout ce qui est recrutement, enfin des ressources humaines, c'est ce qui va donner l'impulsion de départ. Et après, il y a un effet un peu boule de neige, ça veut dire que quand vous arrivez à attirer une certaine population, cette population va parler du concept, du lieu à une population qui forcément lui ressemble un petit peu. Et après, on crée cette ambiance-là, quoi.
Ok. Alors, du coup, je veux revenir sur les deux points là. Tu me parlais du choix des profs et des choix de communication. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut revenir sur justement ce choix des profs et je sais pas, je suis coach, je postule chez toi. Qu'est-ce que tu vas regarder chez la mm-hmm. personne? Et une fois que tu lui as dit OK, on va signer, comment tu l'as fait rentrer dans cet état d'esprit, dans cette dimension je casse mes codes et tout ça? Parce que, on en parlait tout à l'heure, mais les écoles de formation, elles sont toutes les mêmes. Mm-hmm. Et que je sois formé pour aller à la concurrence sur un truc très très grande marque type Fitness Park, Basic Fit. Mm-hmm. J'ai la même formation que quand je viens chez
Bien
toi.
Sûr.
Du coup, toi, qu'est-ce que tu recherches chez tes candidats et comment tu les, Comment tu leur
Je pense qu'il y a deux choses différentes. Déjà, la formation de base, elle est nécessaire pour être coach. Et effectivement, c'est pas forcément ce qui va faire que la personne correspond ou pas. Ce qu'on va regarder, c'est déjà la personnalité de la personne humaine. C'est-à-dire que, hormis ses compétences de coach sportif, déjà voir son état d'esprit, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, voir si déjà on veut pas changer les gens en les formant, en fait. Ce qu'on décrit là, c'est déjà c'est des qualités humaines qui sont liées à un état d'esprit, un comportement, une personnalité, en fait.
Okay.
Qu'on a déjà. Donc en fait, on choisit des gens qui ont déjà une personnalité qui colle avec nous, notre état d'esprit.
Ouais.
Et la deuxième chose, c'est aussi la formation, c'est, on va dire, le minimum pour pouvoir enseigner. Mais après, ce qu'on aime, c'est les gens qui vont pousser plus loin avec en autodidacte ou avec d'autres formations complémentaires, qui ont cette envie de toujours apprendre, se former, découvrir de nouvelles disciplines, une ouverture d'esprit qui va plus loin que la formation de base, et aussi que ce soit dans le sport et hors sport, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont aussi s'intéresser à d'autres choses que uniquement leur discipline. Et ça n'empêche pas d'avoir des coachs qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais voilà, qui peuvent aussi avec qui on a envie de discuter sur aussi d'autres sujets que uniquement leur discipline.
Ok. Donc ton recrutement, tu as un process de recrutement particulier ?
Le process, c'est assez classique. Hein, on a passé des annonces. Après, il y a eu évidemment des recrutements qui se sont faits de par mon réseau que j'avais avant, de connaissances, d'amis de connaissances, etc.
Ouais.
Mais sinon, c'est par des voies assez classiques.
Okay.
Mais c'est quelque chose qui a pris du temps parce qu'on a pris vraiment on n'a pas voulu prendre des gens par défaut, quoi.
Ok. Ce que j'entends et ce qui me semble important et ce que je suis en train de vivre aussi sur mon site là, avec le recrutement, c'est que au-delà du fait que, en effet, c'est pas parce que tu as le permis que tu sais conduire, c'est pas parce que tu as le diplôme que tu es un bon prof, on est d'accord. Ça te donne juste la base pour avoir le droit d'eux. Mais ce qui me semble important de souligner là, c'est qu'en fait, tu vas rechercher un état d'esprit et c'est plus ça qui t'anime. Et du coup, ma question, elle est. Est-ce que si tu as quelqu'un qui est très bon, mais qui n'est pas dans l'état d'esprit, ou est-ce que si tu as quelqu'un qui est un peu moins bon techniquement, mais qui est dans l'état d'esprit, lequel tu choisis et pourquoi ?
Celui qui est plutôt dans l'état d'esprit est peut-être moins bon, parce que je me dis qu'il pourra se former et du coup être assez rapidement dans le bon état d'esprit et meilleur que quelqu'un qui est très bon mais pas dans le bon état d'esprit. Vous ne lui ferez pas changer d'état d'esprit. Et je pense que lui, de toute façon, ne sera pas à l'aise. Et je pense qu'une des clés... Ça me revient en y réfléchissant, mais d'épanouissement déjà d'un coach, c'est déjà d'aimer faire, les cours qu'il enseigne, ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, certains clubs demandent une certaine polyvalence, et cette certaine polyvalence entraîne des fois que des coachs enseignent des cours qu'ils n'aiment pas forcément. Et évidemment, ça se ressent, et on peut pas être bon dans un pour enseigner un cours alors qu'on n'aime pas forcément la discipline. Donc nous, on n'a que des coachs qui sont spécialisés et qui donnent des disciplines qu'ils aiment enseigner. Donc déjà, je pense que ça, c'est la base.
Je le dis pour ceux qui ne sont pas issus du monde du fitness, en fait, le champ d'intervention d'un coach fitness est hyper large.
C'est ça.
Et c'est vrai que quand on ne s'y connaît pas, on dirait de l'extérieur, ok, bon, il fait un cours. Mais il y a vraiment des grandes spécificités, des grandes différences entre différents cours. Vous avez des cours où vous faites sur la musique, pas la musique, chorégraphié, pas chorégraphié. Il y a des concepts qui sont bien particuliers, etc. Du coup, il faut bien avoir en tête, pour ceux qui ne connaissent pas ce secteur, qu'un coach fitness, ce n'est pas un coach fitness. Il y a vraiment des spécialités et la polyvalence extrême sur du coach fitness en cours collectif est plus que compliquée à avoir, à mon sens.
Surtout certaines salles en fait qui travaillent avec des concepts où il y a en fait des, comme vous le disiez, des chorégraphies à apprendre, et ça permet d'avoir en fait une certaine uniformité. Donc ça a du bon et du moins bon, mais ça bride énormément les coachs et en fait toute leur créativité, elle est tout simplement mise de côté.
Ouais.
Et je pense que sur le moyen long terme, un coach à qui on demande uniquement d'apprendre par cœur des cours, des mouvements, et qu'on ne lui demande pas lui-même de créer des cours, je pense qu'il perd tout enthousiasme
Ok.
Enfin, au bout d'un certain temps, quoi, ce qui est logique, quoi.
Ouais. Du coup, la mobilisation de tes coachs. Alors, est-ce que déjà dans vos salariés, vous avez que des coachs ou vous avez d'autres types de salariés?
Des gens à l'accueil, non, c'est l'inverse. Bar. Dans nos salariés, on n'a qu'un seul coach et tous les autres sont des intervenants.
D'accord.
À leur compte.
Ok. Et vous avez du monde à l'accueil ou vous avez du monde au bar? C'est.
Ouais. Ouais. On a une quinzaine de salariés.
D'accord. Et c'est alors sortons un peu des coachs, mais ces autres salariés, comment tu fais pour les mettre au goût du jour, au goût de l'état d'esprit que tu veux développer? Parce que les coachs, on entend que c'est de la relation client, c'est pardon. Ils ont de l'autonomie, ils peuvent créer et donc du coup ça colle un peu, c'est un peu raccord aussi avec ce que vous faites ici. Pour les autres salariés, comment tu fais pour les mettre dans l'état d'esprit?
Ils le sont déjà un peu de base.
D'accord. Dans le process de recrutement, exactement. Vous cherchez un peu ça.
Là, c'est-à-dire que c'est pareil, quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par notre volet événementiel, culturel. En fait, c'est vraiment. Ce qu'il faut comprendre à la Montgolfière, c'est que c'est un seul et même lieu et on peut pas recruter quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour, par exemple, la partie culturelle. Parce que si quelqu'un vient lui poser une question, il faut qu'il soit au minimum au courant, qu'il soit au minimum qu'il a envie de transmettre des infos et un peu de connaissances sur ce qui se passe ici. Si c'est juste. Le strict minimum en disant c'était l'artiste ou c'était le. Bon, c'est faut pas.
Chercher un peu plus loin.
C'est
quoi.
Ça. Ouais. Il faut que. Mais même pour eux, je pense que la meilleure façon d'être épanoui, pour la même chose que pour les coachs, il faut être dans un environnement qu'on aime. Si on a la chance de travailler dans un environnement qu'on aime, c'est quand même, ça fait quand même la différence au quotidien et on a plus de chances d'être épanoui. Ça ne suffit pas, évidemment, mais. Okay. On pense que les gens travaillent mieux quand ils sont épanouis. Et on essaie de trouver les bons profils qui se reconnaissent dans toutes ces valeurs-là.
Ok, je note. Les gens travaillent mieux quand ils sont épanouis. Ça me semble essentiel. C'est pas forcément aisé tout le temps, mais.
On a de la chance d'être quand même dans un secteur qui est assez sympa. Je pense qu'évidemment dans d'autres secteurs c'est plus compliqué d'avoir ce discours-là. Mais l'épanouissement, il peut passer par mille choses et ça passe aussi par de la considération, même si évidemment il y a des strates, il y a un management, etc. Mais que tout le monde se sente concerné par le projet, ça passe par des petites choses du quotidien qui peuvent aussi faire la différence.
Ça se fait comment ça?
Concrètement, par exemple, demander l'avis de quelqu'un sur quelque chose, même si c'est pas lui qui va décider. Alors des fois, ça peut être au contraire, ça peut être frustrant parce qu'on avait écouté son avis, mais c'est de la considération, quoi.
Okay.
Et pas juste uniquement, non, mais toi, ton avis nous intéresse pas et va faire ça et ça sera très bien, quoi.
Ok. 15 salariés, ça fait quand même pas mal de monde à gérer, parce que vous êtes ouvert 7 jours sur 7.
Oui.
Du coup, ça vous fait une grosse amplitude. J'imagine que tu ne croises pas tout le monde tout le temps.
Non, mais on essaie de garder aussi une proximité, une accessibilité envers tout le monde.
Ouais. Comment ils font ça veut dire au quotidien, on peut te contacter. Il y a un WhatsApp commun, vous êtes
c'est
sur
ça,
Slack.
Il y a des groupes WhatsApp. Ouais. Et puis nous, physiquement, on est présents et on essaie de se rendre disponible et de hormis des réunions régulières, d'échanger, de garder, on va dire, un pied vraiment avec tout le monde, quoi, de proximité. Quoi.
Ok. Vous avez des routines managériales, justement? Tu parlais de réunions, là.
Oui, mais même là-dessus, on essaie quand même d'être, même s'il y a une régularité, d'être, on va dire, assez décontracté.
Ok.
Ça se fasse toujours
naturellement.
On obtient plus de choses quand c'est décontracté parce que l'ambiance, les gens se parlent plus et plus que le côté trop formel qui peut au final être contre-productif, je pense.
Ok. On a fait un bon tour du management là. Mm-hmm. Est-ce que tu vois d'autres axes, d'autres spécificités que vous avez ou des trucs que vous avez mis en place et tu te dis ça se fait pas partout, on a inventé ou. En tout cas, on a fait quelque chose d'assez sympa et ça voudrait.
Dans la partie management.
Ouais, sur la relation humaine.
En fait, encore une fois, c'est spécifique à notre activité. On a des chances d'être un lieu physique où il y a des événements qui se passent régulièrement.
Ouais.
Donc c'est aussi plus facile de se retrouver tous ensemble autour d'un, enfin, avec le prétexte d'un événement pour voilà, passer du temps, on va dire, un peu plus sympa, enfin, voilà, où on se relâche un peu, on peut échanger, etc. L'équivalent d'une team building, mais qu'on aurait entre guillemets
au boulot,
à domicile. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, forcément. Ok, je note. Du coup, on a décliné le comment tu fais, tu transmets ton état d'esprit à tes salariés. Tes clients, j'imagine que ça se fait un peu naturellement, parce que si on vient ici, c'est qu'on est attiré par le lieu, c'est donc ça. On est déjà plus ou moins dans l'état d'esprit avant même de venir. Par contre, tout à l'heure, tu m'as parlé quand même de communication, donc j'imagine qu'il n'y a pas que du bouche à oreille. Est-ce que tu peux nous parler de vos stratégies de com?
En fait, on part du principe de base que c'est le produit. Quand j'entends produit, c'est voilà, toute cette machine-là avec évidemment l'aspect humain, bah, voilà, des coachs et autres. On mise avant tout là-dessus, sur la qualité du produit, pour justement déclencher le... Enfin, optimiser, enfin, le bouche à oreille, en fait. Donc, voilà, ça, c'est vraiment notre principal choix de base. Après, évidemment, on fait de la communication sur les réseaux sociaux, Instagram, Insta, Facebook. Ouais. Et on a aussi eu de la chance d'avoir pas mal de presse. Donc, ce qui a aussi participé à un gain de notoriété. Mais on ne fait pas de publicité à proprement parler, on va dire tout ce qui est, je sais pas, affichage. Enfin, si, on avait fait de l'affichage, pardon. Mais je veux dire, qui était plus sauvage. Mais pub métro, ou, enfin, on va dire, voilà, ou dans des bus, ou dans ou des prospectus. On essaie de ne pas trop polluer les gens avec tout ce côté un peu publicité, un peu nuisible. Quoi.
Ok. Très bien. Ça fait partie de l'état d'esprit aussi.
Ça fait partie de l'état d'esprit aussi, bien sûr.
Tout à fait. Ouais. Quitte à décliner, autant y aller jusque dans sa com. Très bien. Je précise que la Montgolfière, c'est un club qui n'est accessible qu'à ses adhérents. Ce qui veut dire qu'on y a pas, vous ne faites pas d'entrée au ticket, etc. Alors, c'est pour les gens qui connaissent le fitness. Ouais. Je dis ça pour ceux qui connaissent le fitness, on va dire grand public et plus classique. Vous restez ouvert à tous, mais par contre, pas au ticket, que à l'abonnement, c'est
pas
ça.
Pas au ticket et l'espace du rez-de-chaussée. En fait, quand vous êtes membre, vous avez la possibilité d'inviter quelqu'un ou même plusieurs personnes dans l'espace du rez-de-chaussée pour faire des rendez-vous, pour travailler.
D'accord. Ok. Ouais, je le précise parce
évidemment,
que...
Évidemment, pardon de te couper. Ouais. Pour les événements, évidemment, on ouvre les trois quarts du temps, ils sont ouverts à tout le monde.
D'accord, très bien. Ces événements-là, du coup, j'imagine qu'ils participent de l'état d'esprit. Est-ce que tu peux nous... Ça fait partie de votre com aussi.
Bien sûr.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi les types d'événements et pourquoi tu choisis ces événements-là?
Alors, il y a vraiment dans tous les styles. Justement, on ne voulait pas se cantonner à un certain... Enfin, on fait des expositions, voilà. C'est pas parce qu'on est principalement, on va dire, une salle de sport, on va faire des expositions que sur le sport. Je crois qu'on en a fait une depuis le début qui est liée au sport. Donc, ça peut être de la photo, de la peinture, des sculptures. Ça peut être, donc, ça, c'est pour la partie expo. Mais on a fait beaucoup de talks avec des sujets complètement variés. Ça va de l'entrepreneuriat à l'architecture, enfin, voilà, et j'en passe. On a fait des projections, que ce soit de films, de matchs de foot, de courts métrages, on a fait des lives, on a fait des DJ sets, on a fait ça va même de la roller party à honnêtement on a fait vraiment
beaucoup
plein de
choses
mais complètement différentes et c'est ça que je pense que les gens aiment, c'est et c'est nous en tout cas, c'est ce qu'on aime faire, c'est surprendre un peu les gens et aller des fois dans des domaines où on ne nous attend pas forcément.
Ok. Je rebondis sur cette histoire de surprise là parce que pour le coup ça me surprend. Dans l'état d'esprit que je comprends, l'idée c'est que les gens ils se sentent chez eux. Quand tu es chez toi, ce que tu aimes c'est que tu sais à quoi t'attendre. Tu as une espèce de potentiellement tu installes des routines. Voilà, tu rentres chez toi, tu sais qu'il va faire chaud, tu sais que le café est là, que ton canapé est là, que machin. Pas forcément que tu vas pour de la surprise. Alors qu'est-ce qui fait l'intérêt?
C'est pas un happening où tout d'un coup on pousse les tables et il y a trois clowns qui débarquent.
Ouais, on est d'accord.
Moi j'étais venu pour bosser, qu'on s'attendait pas à ça.
Ouais.
Il y a quand même un programme, on le sait à l'avance. Et quand je dis surprise, c'est quand on voit ce qui est au programme.
Ouais.
On dit ah tiens, il y a ça le jeudi à telle heure. Et Donc, il n'y a pas de gêne, on va dire, lié à cet effet-là. Alors, évidemment, il y a des fois des gens qui n'ont pas forcément vu le programme et qui venaient s'entraîner. Et au contraire, ils sont assez surpris. Tiens, qu'est-ce qui se passe ce soir, etc. Donc, je ne pense pas que ça puisse... ou peut-être que c'est arrivé, mais c'est très marginal.
Oui, d'accord. C'est des surprises qui sont prévues à l'avance, quoi.
C'est ça.
Ok. Très bien. Du coup, ça fait... tout à l'heure, tu as dit que c'était la qualité du produit qui permettait d'optimiser votre stratégie de bouche-oreille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous mesurez cette qualité de produit? Est-ce que vous faites des enquêtes sur qualité, savoir ce qu'en ressentent les clients? Ou est-ce que vous n'avez pas nécessairement besoin, parce que je sais pas, vous avez un indicateur, votre taux de churn, votre taux de je sais pas quoi, qui vous dit que, en fait, si les gens restent typiquement, c'est qu'a priori, la qualité, ça va.
Bah, on voit sur... Alors, on a plusieurs indicateurs. Bon, on a déjà, quand les gens partent, 9 fois sur 10, c'est parce qu'ils déménagent ou parce que c'est pas lié, il n'y a pas de déception par rapport au produit. On voit aussi à travers des avis Google, mais principalement en discutant avec les gens, parce que voilà, on a notre équipe, elle est proche en fait de nos membres. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui vont se plaindre ou qui sont pas forcément contents sur un truc, et justement on essaie de les écouter et de s'améliorer si on peut le faire, ou d'essayer d'entendre en tout cas ce qu'ils nous disent, et je pense que les gens le ressentent. Voilà, on est une jeune entreprise et on n'a pas été parfait depuis le début, et on travaille justement sur les points, nos faiblesses, et on a envie de s'améliorer perpétuellement, quoi.
Ok.
Et je pense que ça, les gens le ressentent, et du coup ça participe au taux de satisfaction assez élevé.
Ouais. Oui, en général, quand tu es sur un dispositif d'amélioration continue, ça,
c'est ça.
Les gens le ressentent.
Les gens sont assez tolérants envers des petites bêtises, on va dire. Mais ce qui énerve le plus les gens et tout le monde, et moi y compris, c'est quand on est déçu de quelque chose, ou on observe quelque chose, une incohérence ou je sais pas, n'importe quoi, et qu'on se retrouve face à un mur qui nous dit écoutez, c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, allez voir la concurrence, quoi.
Ouais.
Et ça, nous, on n'a jamais eu ce discours-là, quoi.
Ok. Ouais, c'est un bon moyen pour perdre un client, ça.
Alors, c'est peut-être pas dit aussi crûment, mais des fois, on vous fait comprendre que...
Ouais, non, mais je vois bien. Je crois qu'on a tous vécu ça une fois.
On s'en fout un peu, quoi.
Ouais. Bon, j'ai tous vécu une fois ce genre de réponse qui te fait dire « Ok, je vais aller à la concurrence. »
C'est ça, en général.
Pas de problème. Voilà, on va s'arrêter là. Tout à l'heure, tu as dit un truc sur tes collaborateurs. Tu as dit « Ils sont proches des membres. » Et du coup, c'est comme ça que tu obtiens des retours aussi.
Bien sûr.
Comment tu... du coup, on revient un peu sur le management, mais moi, je me pose toujours la question de, à partir de quand l'échange relationnel et qualitatif pour le boulot devient de la discussion et du papotage. Et du coup, comment tu vas pour fixer ces limites? Tu vois, c'est...
Bah, je pense que les limites, elles vont se définir si cette partie-là empiète sur une tâche qui a été donnée à cette personne-là et qui ne serait pas faite, en fait.
Ok.
À partir du moment où tout ce qu'on demande à la personne est réalisé, on ne voit pas d'inconvénient à ce qui est, une discussion avec des membres qui pourrait durer un peu. Enfin, voilà, c'est le côté humain où, voilà, c'est ça qui est intéressant, justement, c'est de pouvoir ne pas s'interdire de certains sujets ou pas, enfin voilà. Après, il y a quand même évidemment une frontière sur certains points, mais ça déjà, c'est dur pour nous d'aller s'initier là-dedans, en fait.
Ok, d'accord. À partir du moment où tes équipes, elles font le boulot que tu leur as demandé, si elle chatche en fait avec les clients, c'est
bien
que
ça fait
partie d'une relation.
S'il y a un lien d'amitié ou qui se crée, bah pourquoi pas, quoi.
Ouais. C'est okay. Ok. Ça peut faire partie de l'état d'esprit.
Bien sûr.
Ouais. Ouais, j'ai la sensation que comment dire, vous avez les gens qui viennent ne sont pas avant tout des clients. C'est plutôt.
Non, bien sûr. Bah, on a un club, en fait, donc c'est. Ouais. c'est des membres, ils, donc ils sont membres du club, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à ces valeurs-là. Et ils ont envie en fait de partager, d'échanger avec les autres membres, mais aussi enfin, notre équipe elle fait partie du lieu et c'est un peu les ambassadeurs de la marque quoi. Okay. Ils sont pas juste là pour vous expliquer où sont je sais pas tel ou tel cours ou comment on marche, enfin c'est aussi voilà, c'est un lieu de vie et dans la vie il y a des échanges, il y a des voilà, même si c'est des petits trucs du quotidien, mais c'est important. Et ça fait partie de cette ambiance aussi chaleureuse et conviviale.
Très bien. Sur la com, pour revenir sur le sujet là, tout à l'heure tu parlais d'Insta. Aujourd'hui, vous le pilotez en direct.
Oui.
Pourquoi avoir choisi Insta et pas un autre réseau social ? Et même, j'irais plus loin, si votre premier réseau, c'est le bouche à oreille et c'est vos membres. Pourquoi ne pas avoir tablé que là-dessus, par exemple ? Parce que moi, j'ai été surpris quand je suis arrivé. Je vous suis sur Insta, du coup, depuis un certain temps, comme on le disait. Et c'est vrai que, vu de la rue, il n'y a pas de panneau. Quand tu arrives devant la porte, il faut vraiment chercher le panneau pour savoir que c'est là. Parce que, voilà, qui plus est, on est pendant le couvre-feu, donc c'est fermé. Ouais. Et donc, les portes sont fermées. Donc, en plus, le lieu ne se voit pas de l'extérieur. Mais la question, c'est... en fait, on ne vous voit pas de la rue. Mm-hmm. Tu me dis que vous ne communiquez pas dans la rue, etc. Mm-hmm. Donc, vous n'êtes pas visible dans l'espace public, jusqu'à devant la porte. Mm-hmm. Et pourtant, vous êtes sur Insta qui est l'espace public virtuel, mais espace public s'il en est quand même.
Oui. En fait, nous, on est un lieu de destination. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres... Je ne sais même pas parler de club de sport, mais d'autres... Je sais pas comment un supermarché, on prend le premier qui est sous la main, quoi. On sort de chez nous, ok. À part si on a vraiment quelque chose de spécifique à acheter, mais nous, voilà, on est plutôt un lieu de destination. On ne vient pas par hasard parce qu'on est passé devant, mais parce qu'on a cherché à vouloir faire du sport, à certains cours. Donc cette visibilité sur rue. Elle ne nous apportait pas quelque chose forcément d'hyper important. Enfin, en tout cas, on a pu s'en priver. Aujourd'hui, voilà, on se rend compte que c'était pas si tard que ça, en fait.
Okay.
Donc, ton autre question, pardon, c'était...
Du coup, pourquoi avoir basculé sur... pourquoi être sur Insta ?
Ok. Parce que ça permet... le bouche à oreille, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant, parce qu'il y a un moment où on veut quand même avoir des vidéos, des photos. Le bouche à oreille, c'est que des échanges comme ça, et c'est pas forcément très illustré, quoi.
Ouais.
Et quand on veut savoir un peu plus à quoi ça ressemble, c'est un peu une vitrine. On va dire comme un site internet, tout simplement.
Ouais.
Qui va retransmettre l'ADN dont on parlait tout à l'heure, justement.
Ok, très bien, je comprends. Je n'avais pas vu l'histoire de la rue.
La différence, on va dire, si ta question suivante est quelle est la différence entre le site et ça, ça permet d'avoir une interaction aussi avec les gens.
Ouais.
Et quand on a un social club, c'est un des premiers trucs. Enfin, aujourd'hui, par exemple, là, on a un Covid, donc on est fermé temporairement. On maintient un lien avec les gens grâce justement à ce canal-là. En postant des vidéos, etc.
Oui, j'ai
plus facilement que sur un site.
Ouais, bien
et
sûr.
On a des retours, des commentaires, on échange, même des messages.
T'es membre, du coup ? Vous dites membre, vous dites abonné, vous dites quoi ?
Membre, abonné.
Les deux.
Plutôt membre, mais bon.
Ok, d'accord, très bien. Ce qui m'intéresse, c'est du coup, les membres, ils viennent, ils ont déjà cet état d'esprit, mais est-ce que, comme tu es sur Insta, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui viennent, des fois qui passent la porte parce qu'ils ont aimé les photos, justement, ou les vidéos, ils viennent voir. Comment tu gères ces gens qui viennent et peut-être qu'ils ne vont pas forcément coller à l'état d'esprit ? Comment tu les acculturent à cet état d'esprit ? Comment ça fonctionne ?
Je pense, évidemment, il y a des personnes curieuses qui viennent et qui vont venir visiter, mais qui ne se retrouvent pas à 100%, on va dire, dans cet esprit. Et puis, je pense qu'ils le comprennent. ils se sentent pas forcément à leur place et du coup ils ne s'amènent pas quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça quoi.
Ok, d'accord.
Quelqu'un qui vient vraiment faire du sport performance, il va chercher déjà peut-être du matériel qu'on n'a pas forcément. Je sais pas. Ça c'est pas. Pour le moment, c'est pas arrivé en tout cas.
D'accord, très bien.
Bon, bah, ça résout le problème du coup.
Ok. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des deux sujets qu'on voulait aborder, à savoir la RH et la com. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose sur la montgolfière? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez développé ou que vous avez.
Sur quel sujet
sur un sujet que tu veux. Ouais. En fait, moi, je trouve assez. Je connaissais pas le concept avant il y a quelques heures, du coup. Parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Je l'ai pas dit au début, mais c'est la première fois. Merci, Marc, d'ailleurs, de nous avoir mis en relation. Non, je trouve ça assez dingue de cette idée de créer un lieu de vie. Mmh. Et en fait, on me l'a présenté comme une salle de sport, mais là, on est assis dans le hall. Mmh. On voit pas les machines. Mmh. Je me sens absolument pas dans une salle de sport. Pourtant tes clients viennent pour ça et j'imagine que les membres du coup ils viennent parce qu'ils sont sportifs mais en fait ils y trouvent tellement d'autres choses derrière que ça les fait rester sur plein d'autres choses.
Il y a beaucoup qui viennent au début uniquement pour la partie sportive et l'adhésion se fait pour ça principalement et qui découvrent en France on n'a pas trop cette notion de social club elle existait quasiment pas. C'est plus commun dans les pays anglo-saxons et c'était tout de suite en tout cas dans les pays anglo-saxons et même à Paris dans une dimension très exclusive très souvent de luxe, un peu guindé type je sais pas, l'Interallier ou Tir au Pigeon enfin des clubs comme ça ou des élites où il y a vraiment cette notion de prestige. Et nous, on ne voulait pas du tout cet aspect-là. On voulait plutôt, au contraire, le côté convivial et simple, décontracté. On retrouve dans des clubs, que ce soit associatif ou quand vous êtes jeune, vous faites du volley ou j'en sais rien, du judo, la boxe, de l'athlé. Bah, les gens se connaissent, ils échangent, ils s'appellent par leur prénom. Dans les clubs de tennis, des fois, il y a des. Ou dans, après, il peut y avoir un bar ou même dans les clubs d'escalade. Enfin, ce côté un peu convivial hors sport qui existe, qui n'existait pas non, du tout dans les clubs de sport. En fait. Je pense que c'est cette dimension-là qu'on a apportée, en tout cas, assez novatrice.
Ouais, je pense. En tout cas, je ne sais pas s'il en existe d'autres des lieux comme ça, mais en tout cas, moi, c'est le premier que je découvre et ça me parle vraiment beaucoup. Ok, merci beaucoup
merci à toi
pour ces 40 minutes passées ensemble.
Merci pour l'invitation.
On peut te suivre sur LinkedIn, on peut te suivre sur Insta, on peut te suivre.
Alors, la Montgolfière
La Montgolfière est sur Insta, du coup. Et toi, personnellement?
Alors, personnellement, j'y suis, mais je ne cultive pas forcément. Mon compte, c'est plus un truc perso pour des amis, donc je ne le mets jamais trop en avant.
Ok.
Mais les gens s'ils veulent me rencontrer ils peuvent venir à la Montgolfière. Je suis quasiment quotidiennement et je les recevrai avec plaisir.
Très bien, soyez les bienvenus. Une dernière question, ça fait 2 ans que vous avez ouvert, comment toi tu continues, comment tu progresses?
Un projet n'est jamais vraiment fini et c'est ça qui, d'ailleurs qui est aussi ça serait assez triste en fait si au bout d'un, d'un certain nombre de temps on se disait là tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Un projet comme ça, il y a toujours quelque chose à améliorer. Il y a toujours en plus avec notre partie événementielle qui est de toute façon assez mouvante, c'est jamais fini. Et en plus, on a en parallèle tout un projet de développement sur lequel on travaille.
Quand tu dis on, c'est avec ton associé, tu peux nous vite fait son nom, son prénom?
Alors c'est Basile Lombard-Latune
vous êtes tous les deux sur le projet.
On est tous les deux sur le projet et tous les deux sur le développement.
Okay. Très bien. Bon, merci à Basile. Du coup,
merci.
Merci à toi en tout cas. Je te souhaite une très bonne journée. Bah. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis on se retrouvera le mois prochain. N'hésitez pas à aller sur l'Insta de la Montgolfière et à passer les voir, c'est vraiment chouette ici. À bientôt.
Merci Guillaume.
Si vous êtes encore là, merci et bravo d'avoir suivi l'ensemble de cet épisode. Partagez ce podcast à un maximum de personnes, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre appli de podcast préférée, avec un super commentaire s'il vous plaît. Retrouvez-moi sur Instagram ou Medium. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.